pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 22e dimanche. Les pharisiens, quelques-uns des scribes venus de Jérusalem, s'assemblent auprès de Jésus. Voyant certains de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, en effet, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains soigneusement par attachement à la tradition des anciens. Revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils tiennent de la tradition. Lavage de coupes, de plats, de vases et de plats de bronze. Voyant cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent.
Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures?
Il leur dit.
Isaïe a bien prophétisé sur vous, les hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Creux est le culte qu'ils me rendent. Les enseignements qu'ils enseignent sont des préceptes humains. Oui, vous délaissez le précepte de Dieu et vous tenez la tradition des humains.
Il leur dit.
Vous repoussez bel et bien le précepte de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère ». Et encore, « Qui maudit père et mère soit puni de mort ». Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère « Le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée », vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre.
Puis, appelant de nouveau la foule, il leur dit
« Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'être humain, voilà ce qui rend l'être humain impur. »
Lorsqu'il est entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogent sur cette maxime de sagesse. Il leur dit
« Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'être humain ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse ?»
Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit
« Ce qui sort de l'être humain, c'est cela qui rend l'être humain impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des êtres humains que sortent les mauvaises intentions, débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités et méchancetés, ruses, impudicités, envie, diffamation, orgueil et déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'être humain impur. » Auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Oh, que voilà un long texte. Il est vrai que la liturgie en donne une version abrégée, mais il nous a semblé utile de donner la version complète pour mieux en saisir le sens. Et la place de ce texte dans le récit de Marc nous indiquera, sans doute, le sens que les premiers chrétiens ont donné à cet enseignement de Jésus. Eh bien, quel est son contexte? Ce récit est sans doute un assemblage des nombreuses discussions entre Jésus et les pharisiens à propos des règles qui concernent le pur et l'impur. Ce récit va être suivi de l'activité de Jésus en terre païenne. D'abord guérison de la femme syrophénicienne, une païenne, puis guérison d'un sourd-muet et seconde multiplication des pains dans le territoire païen de la Décapole. L'observance des règlements de pureté doit donc avoir un lien avec la mission auprès des païens. Et ce lien sera capital pour le développement de la foi chrétienne en dehors du peuple d'Israël.
Les pharisiens, quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.
Oui, nous sommes en Galilée, la province où Jésus a passé son enfance et sa jeunesse. La Galilée est pluriethnique, elle est peuplée de juifs, mais aussi de gens d'autres origines, d'origine donc païenne. La foule semble avoir été très enthousiaste à la suite du repas des pains partagés et des guérisons que Jésus a faites. Et ce succès intrigue sans doute les responsables religieux de Jérusalem. Et alors ils envoient une délégation pour vérifier l'enseignement de ce rabbi Jésus, qui n'est probablement pas passé par les écoles rabbiniques. Et ils vont l'attaquer sur un terrain qui leur est cher, c'est-à-dire le respect des règles de pureté.
De quoi s'agit-il ?
Alors ce que la religion juive, comme beaucoup d'autres religions d'ailleurs, nomme le pur, c'est tout ce qui traduit ou exprime la vie, et qui nous met donc en lien avec Dieu qui est la source première de la vie. L'impur, lui, décrit tout ce qui se touche à la mort, et donc tout ce qui nous sépare de Dieu, source de vie. Ainsi, la maladie, le contact avec une personne ou un animal mort, sont liés à l'impureté, mais aussi la fréquentation des païens, puisqu'ils servent d'autres divinités que le Dieu d'Israël. La Torah de Moïse, c'est-à-dire l'enseignement divin qui est donné dans la Bible, avait décrit abondamment tout ce qui était impur, et au fil des ans, on en avait largement alourdi la liste. Si on veut s'en convaincre, eh bien, il suffit de se reporter au chapitre 11 à 15 du livre biblique qu'on appelle le Lévitique. Un certain nombre d'animaux sont considérés comme impurs, soit parce qu'ils servent au culte païen, soit peut-être parce qu'ils peuvent apporter la maladie. La lèpre, qui détériore la vie du corps humain, est liée à l'impureté, mais par assimilation sans doute. La lèpre des maisons, c'est-à-dire le salpêtre, les moisissures qui détériorent les murs, sont aussi impures. Le contact avec quelqu'un d'impur, c'est-à-dire un lépreux ou bien un païen, rend celui qui le fréquente impur. De même d'ailleurs que la fréquentation des lieux où se trouvent ces gens. On se souvient de la parabole du bon samaritain en Luc, au chapitre 10, qui décrit le prêtre et le lévite qui vont passer à côté de l'homme blessé et sans le secourir, sans doute pour éviter de se rendre impur au contact du sang répandu, le sang qui est le signe de la vie. Ce sera le samaritain, quelqu'un qui est considéré par les juifs orthodoxes comme un hérétique, ce sera le samaritain qui va secourir le blessé sans se préoccuper de son impureté. Pour se purifier de l'impureté, que faut-il faire ? Eh bien, il faut se baigner, même parfois offrir au temple le sacrifice d'un animal, afin de renouer le lien avec Dieu, ce lien qui a été détérioré par l'impureté. Donnons un exemple tiré du chapitre 15 du Lévitique.
Quand cet homme impur sera guéri, il comptera 7 jours pour sa purification. Il devra nettoyer ses vêtements, laver son corps à l'eau courante et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons et viendra devant le Seigneur Dieu. De l'un, le prêtre fera un sacrifice pour le péché et de l'autre, un holocauste. Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?
Oui, les prescriptions bibliques étaient déjà très nombreuses. La Torah comporte 613 prescriptions et interdits. Cependant, la tradition des rabbis avait ajouté au fil des ans quantité de règlements qui venaient interpréter et préciser les règles de la Torah de Moïse. On donnait à cette tradition le nom de tradition des anciens ou de doctrine des pères. Écoutons un historien juif du 1er siècle, Fabius Joseph, qui parle de cet enseignement complémentaire.
Les pharisiens ont transmis au peuple de nombreuses prescriptions héritées de la doctrine des pères, qui ne se trouvent pas écrites dans les lois de Moïse.
Ces exigences de pureté étaient particulièrement, bien sûr, imposées aux prêtres, puisqu'ils avaient un contact permanent avec les choses de Dieu au temple. Mais par zèle, les pharisiens voudront imposer ces exigences à tout fidèle, parce qu'ils veulent faire de tout le peuple un peuple sacerdotal. Ils étaient bien sûr motivé pour cela par des textes bibliques comme celui de l'Exode au chapitre 19.
« Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. »
« Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres. » Voilà, tout le peuple est un royaume de prêtres. Cependant, ces prescriptions étaient tellement nombreuses qu'elles rendaient souvent la Torah impraticable par les simples fidèles. De plus, pour les gens qui ne connaissaient pas toutes les prescriptions, c'était alors les scribes, les maîtres de la Torah, qui devaient les interpréter, et cela donnait aux scribes une très grande autorité sur le peuple. C'est pourquoi lorsque Jésus va contester cette tradition des anciens, il va s'attaquer directement au pouvoir des scribes et des pharisiens. Alors que les pharisiens donnaient les traditions des anciens comme étant égales à la Torah de Moïse, Jésus, lui, va considérer ces traditions comme des règles édictées par des humains qui ne doivent donc pas être considérées à égalité avec les préceptes de Dieu. Et cela va engager un conflit entre Jésus et l'élite religieuse, un conflit qui aboutira à l'arrestation de Jésus et à sa condamnation à mort. Après Jésus, d'ailleurs, ce conflit se continuera à travers la persécution des premières communautés chrétiennes. Souvenons-nous de l'apôtre Paul qui, avant sa conversion, persécute les chrétiens par fidélité précisément à cet enseignement des pharisiens, un groupe dont il faisait partie lui-même. Écoutons-le dans une lettre aux Galates.
« Vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge. Par mon zèle débordant, pour les traditions de mes pères. »
Mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Voilà. Mais pourquoi Jésus conteste-t-il ces traditions des pères, ces règles des anciens? À la manière des rabbis, Jésus va se servir d'un texte biblique, celui d'Isaïe, pour donner sa réponse. Il dit, en prenant un mot d'Isaïe au chapitre 29, « Ce peuple est près de moi en parole, mais son cœur est loin de moi. » On pourrait penser que Jésus dénonce ici une pratique qui ne serait pas vraiment sincère, une sorte de pratique extérieure du bout des lèvres qui ne correspond pas à une véritable intention du cœur. Cela peut être vrai, mais il faut préciser où se situe la sincérité. Déjà, Isaïe avait montré les conditions pour que la pratique des sacrifices offerts à Dieu soit agréable au Tout-Puissant.
« Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur Dieu. Je ne prends pas plaisir au sang des agneaux. Vous avez beau multiplier les prières, moi, je n'écoute pas. Car vos mains sont pleines de sang. Ôtez donc de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Faites droit à l'orphelin. Plaidez pour la veuve. »
Voyez, il ne s'agit donc pas ici d'abord de la sincérité du cœur dans les gestes du culte que l'on fait envers Dieu. Il est question non pas de la sincérité du cœur, mais de la vérité du culte. Et le culte à Dieu ne peut être vrai si on néglige l'amour du prochain, et notamment la solidarité avec ceux qui sont les plus mal pris, c'est-à-dire, à l'époque, les veuves et les orphelins. On peut penser à cette autre phrase, dirait, du prophète Osée, qui est reprise par Jésus, une phrase qui scande les récits évangéliques.
« C'est la miséricorde que je veux, et non vos sacrifices. »
Et plus tard, la lettre de Jean explicitera cette idée.
« Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. »
Donc la sincérité de l'amour de Dieu implique l'amour du prochain. On pourrait dire que l'amour du prochain et l'amour de Dieu sont mis sur le même plan, car on ne peut manifester un vrai amour de Dieu sans vivre l'amour du prochain. Jean en donne la raison fondamentale. Tout geste d'amour vrai vient de Dieu et est inspiré par lui.
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
L'amour de Dieu et celui du prochain découlent tous deux de la même source, de la même inclination. Malgré toute la sincérité avec laquelle on voudrait manifester à Dieu de l'amour, à travers le culte, l'observance des règles de pureté, cette sincérité serait en fait trompeuse si elle ne nous conduisait pas à aimer le prochain. Jésus en donnait l'exemple très clair dans la solidarité qu'on doit avoir avec ses parents. L'aide financière qu'on doit aux parents âgés et nécessiteux ne peut pas être détournée au profit de Dieu, par exemple en faisant des dons au temple. C'est dans la personne même des parents qu'on doit honorer Dieu lui-même. Cet amour de Dieu se vérifie, et il se vérifie en priorité dans l'attitude envers les pauvres, comme Jésus l'illustrera dans la parabole du jugement dernier. Il y montre que tout geste de bonté accompli envers l'affamé, le malade, le prisonnier, sera considéré comme accompli envers le Fils de l'homme lui-même, et donc envers Dieu.
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'être humain, voilà ce qui rend l'être humain impur.
La discussion avec les pharisiens a permis à Jésus de donner la priorité à l'amour du prochain sur tous les gestes de culte envers Dieu. Et avec la foule, eh bien, il va préciser sa vision de ce qui est impur. On a rappelé, au début de notre rencontre, le lien entre l'idée d'impureté et tout ce qui touche la mort. Jésus va donner la priorité, lui, à la mort spirituelle sur la mort physique, et donc à l'impureté spirituelle sur l'impureté physique. Ce qui rend impur, dit Jésus, ce sont les décisions personnelles qui vont contre l'amour du prochain, et cela vient du cœur, le cœur au sens biblique, c'est-à-dire le centre le plus intime de notre personne où intelligence et volonté décident de nos gestes. Dans le récit de Luc, Jésus dit cela d'une autre manière, au chapitre 6.
L'être bon, du bon trésor de son cœur, retire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais.
Une liste de 12 noms, 6 sont au pluriel et 6 au singulier, vient détailler les mauvaises intentions, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil et déraison. Il faut remarquer que toute cette liste a trait au comportement de l'être humain avec son prochain. Le livre biblique des Proverbes contient lui aussi une liste de ce qui est contraire à la vie avec Dieu.
Il y a 6 choses que Dieu hait, 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères.
Et la déraison qui clôt la liste de l'Évangile est peut-être la source de toutes les mauvaises intentions. En effet, dans la Bible, la déraison, l'être sans raison, l'insensé, est celui qui ne connaît pas Dieu parce qu'il n'en tient pas compte dans la marche de sa vie.
L'insensé a dit en son cœur, « Il n'y a pas de Dieu. » Corrompu, abominable, leurs actions. Il n'y a plus d'homme droit.
Jésus dira que celui qui écoute son enseignement sans le mettre en pratique est comme un insensé, un être sans raison qui bâtit sa vie sur le sable. N'est-ce pas cela qu'évoque l'appel de Jésus à la foule ? Écoutez-moi et comprenez. Écoutez-moi, c'est-à-dire au sens fort du mot, obéissez à ma parole. Et comprenez, c'est-à-dire prenez en vous ma parole. Et ainsi vous la mettrez en pratique dans votre vie quotidienne. Si c'est le cœur qui est la source de tout ce qui peut être mortel pour notre être spirituel, alors aucune chose extérieure ne peut être déclarée impure, mortelle en elle-même. Tout dépend de la façon dont on vit intérieurement. Jésus en donnera comme exemple le sabbat. Travailler le jour du sabbat, c'est enfreindre la Torah, car ce jour est jour de repos consacré au Seigneur Dieu. Mais s'il faut, ce jour-là, sauver son bœuf parce qu'il est tombé dans un puits, ou sauver son prochain malade, ou tout simplement sauver sa récolte, parce que les pluies s'annoncent. Alors, on pourra décider des priorités à donner. L'être humain, nous dit Jésus, est maître du sabbat. La lettre de Paul aux Romains nous donne une illustration de cette liberté responsable. Les chrétiens de Rome se demandaient en effet s'ils pouvaient acheter des viandes dans les temples païens. Aux yeux de certains chrétiens d'alors, cela ne pouvait pas se faire. Pour eux, ces viandes sont impures parce qu'elles ont été immolées aux dieux païens. Paul déclara à la fois que ces viandes ne sont pas impures, et donc qu'un chrétien peut en manger, mais qu'il faut pourtant respecter celui qui pourrait être scandalisé par notre attitude.
Cessons de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être cause de scandale pour un frère. J'en suis convaincu par le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture, tu attristes ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. »
On revient donc toujours à l'amour comme critère de comportement, et saint Augustin pourra dire « Aime et fais ce que tu veux ».
Mais en quoi tout cela prépare-t-il la mission chez les païens?
On sait que dès les débuts des communautés chrétiennes, la question des aliments sera importante. Les chrétiens, venant du judaïsme, les anciens juifs, vont continuer à respecter les interdits alimentaires de la Torah. Mais la question se pose, faut-il imposer ces interdits aux chrétiens qui, eux, viennent du monde grec, du monde païen? Les Actes des Apôtres, au chapitre 10, racontent comment Pierre va être interpellé. Une vision lui a montré une table garnie de tous les animaux de la création.
Une voix s'adressant à lui, « Allez, Pierre, tue et mange. »« Jamais, Seigneur, répondit Pierre, car de ma vie je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et de nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois, « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. »
Et peu après, Pierre sera invité à se rendre chez un païen qui désire se convertir. Or, pendant que Pierre prêche le message, l'évangile, l'Esprit de Dieu descend sur ce païen et sur sa famille. Alors Pierre comprend.
Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint?
Un païen, en effet, peut être habité par l'Esprit de Dieu sans être obligé aux prescriptions juives. Paul, le pharisien, lorsqu'il sera converti, se fera le champion de cette liberté. Et les premiers chrétiens vont se référer à l'attitude de Jésus dans sa discussion avec les pharisiens. « Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'être humain ne peut le rendre impur ?» Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs.
Cette ouverture aux païens va engendrer deux leçons importantes. L'être humain est sauvé par sa foi en l'amour de Dieu et non par son observance de la Torah. L'effort vers la pureté ne doit jamais créer de séparation entre les humains.
Oui, deux leçons. Et la première, donc, l'être humain est sauvé par sa foi en l'amour de Dieu et non pas par son observance de la Torah. Même si la fidélité aux préceptes de Dieu est une condition pour marcher sur le droit chemin du bonheur, le bonheur, lui, ne se trouve pas dans la satisfaction d'être juste, mais dans l'accueil de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu ne peut être que gratuit. Il n'est pas donné en récompense à notre fidélité. Le vrai bonheur ne se trouve donc pas dans la satisfaction d'être bon, mais dans le fait de se laisser aimer purement, simplement, gratuitement par Dieu. Voilà la première leçon. La seconde, l'effort vers la pureté ne doit jamais créer de séparation entre les humains. Si l'on met son bonheur, ou sa fierté, dans le fait d'être bon et juste, alors cela va pouvoir créer des séparations entre les humains. Et cela a été une tentation du mouvement pharisien. Le mot pharisien, d'ailleurs, signifie « séparer ». On se souvient de la prière du pharisien dans le récit de Luc.
« Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres humains, qui sont voleurs, malfaisants, adultères. Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme. »
On sait aussi qu'il peut arriver que les justes, fidèles aux prescriptions de la Torah, est du mépris pour le petit peuple illettré qui ne peut connaître toutes les subtilités des préceptes et des interdits. Dans le récit évangélique de Jean, les pharisiens parlent de cette masse qui ne connaît pas la Torah. « Des gens maudits, disent-ils. » Cette séparation entre justes et pécheurs, elle est à l'opposé de la vision de Jésus. Lui, il est venu pour les pécheurs, afin de les réintroduire dans la communauté, de faire cesser leur marginalisation. Pour Jésus, ceux qui se pensent justes et méprisent les autres, ce sont ceux-là en fait qui sont pécheurs, car ils détruisent la vraie charité fraternelle. Cette séparation entre justes et pécheurs entraînait aussi une séparation entre juifs et païens. Les juifs ne pouvaient fréquenter les païens, entrer dans leur demeure, sans être considérés comme impurs. Dans le temple de Jérusalem, une inscription interdisait aux païens l'entrée du parvis des hommes sous peine de mort. Un païen pénétrant dans l'enceinte sacrée du temple aurait rendu impurs tous les juifs qui venaient prier et offrir leur sacrifice à Dieu. Ainsi, la Torah et ses préceptes dressaient comme une barrière de mépris et de haine entre les purs, c'est-à-dire les juifs, et les autres peuples, les impurs. Mais Jésus, lui, a une autre vision. Si c'est l'amour gratuit qui nous sauve d'abord, avant même notre bonne conduite, alors tout être humain est à égalité avec son prochain, car Dieu aime tous et chacun, donnant son soleil et sa pluie aux bons comme aux méchants. Tous les êtres humains sont sur le même plan devant Dieu, et personne ne peut juger l'autre. Dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, Paul décrit le projet qui est celui de Jésus.
Jésus a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la Torah des préceptes et ses directives. Il a voulu ainsi, du juif et du païen, créer en lui un être humain unique et nouveau, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un corps unique.
Eh bien, aujourd'hui, l'Église doit vivre de ce message. Et pour finir, écoutons ce que le pape Jean-Paul II rappelait à la jeunesse lors du Rassemblement mondial de Paris en 1998.
Jésus demeure à côté de vous, dans les frères avec lesquels vous partagez l'existence quotidienne. Son visage est celui des plus pauvres, des marginaux, souvent victimes d'un modèle de développement injuste. Jésus demeure parmi tous ceux qui l'invoquent sans l'avoir connu, parmi tous ceux qui, ayant commencé à le connaître, l'ont perdu, parmi tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, bien qu'ils appartiennent à des situations culturelles et religieuses différentes. En disciples et amis de Jésus, faites-vous des artisans de dialogue et de collaboration. Plus vous vous attacherez à Jésus, plus vous deviendrez capables d'être proches les uns des autres. Et dans la mesure où vous accomplirez des gestes concrets de réconciliation, vous entrerez dans l'intimité de son amour. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514 256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Nous vous donnerons également les tarifs par téléphone.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.